Météorologie naturelle, P. Philippe, 24 décembre 1982, Rimont.
Nous allons continuer cette étude sur Saint Thomas. Je vais aller assez vite, si vous voulez, sur les parties qui annoncent la somme. Mais je crois que c'est quand même important de souligner ces différentes étapes. On ne l'a pas fait beaucoup, on prend ordinairement tout de suite ce que saint Thomas nous donne dans la somme théologique, et je crois que pour bien comprendre ce que nous dit saint Thomas dans la somme théologique, qui est un achèvement après toute une série d'étapes où saint Thomas a tâtonné. Évidemment, saint Thomas, quand il écrit les sentences, est encore assez jeune, alors c'est plein d'espoir. Mais ça, c'est intéressant de voir les tâtonnements de saint Thomas. Parce que c'est intéressant de voir que, de fait, ils étaient inscrits dans une tradition. Alors, je vous avais dit, premier livre qu'il faut voir, c'est toujours les sentences. Les sentences ne sont pas traduites, et c'est pour ça qu'on les laisse dormir, mais c'est intéressant quand même de les regarder, pour ceux qui lisent saint Thomas couramment. Alors, je vous avais donné les dates. Hein. Commentaire des sentences, c'est 1252. Et vous voyez, DNT Essentia, qu'on verra tout de suite après, sur l'être et l'essence, 1253. Ça se suit, c'est presque à la même époque. Et c'est intéressant de voir que, dans son commentaire des sentences, saint Thomas suit l'ordre, donc, de Pierre Lombard. C'est quelque chose de classique, hein, qu'on comprend. La première question, c'est l'unicité de Dieu. C'est intéressant là aussi de voir comment Pierre Lombard commence par l'unicité de Dieu. Un théologien ne regarde pas en premier lieu si Dieu existe. Un théologien regarde en premier lieu le monothéisme. Et c'est vrai, quand vous regardez la Bible, vous voyez que c'est le monothéisme qui est la chose principale. Montrer que c'est absurde, c'est ce que saint Thomas montrera. Saint Thomas donne deux arguments par mode d'impossibilité, montrant qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Puis un dernier raisonnement qui se prend des conditions de la participation pour bien montrer l'unicité de Dieu. Alors c'est intéressant de voir que la participation, ça va du côté de l'unité. Hein. C'est nécessaire. Alors, c'est la première question. On introduit le problème de Dieu par le problème de l'unicité de Dieu dans le problème des sentences. Je vous lis ce passage. Hein. C'est intéressant parce que c'est tout à fait du premier saint Thomas. Ce en quoi l'essai ne diffère pas de la quidité ne peut pas être participé. Quant à sa quidité ou son essence, sans que son essai aussi soit participé. Pas si commode que ça à comprendre. Hein? Mais c'est intéressant parce que c'est tout à fait le début. Hein? Alors, l'essai. Le sens de l'essai chez saint Thomas n'est pas toujours le même. Vous savez, on a mis très en lumière ces derniers temps. Ça fait partie de ces choses intéressantes. Alors, c'est intéressant de voir ce en quoi l'essai ne diffère pas de la quidité. La quiditas. Hein. Vous savez bien que quidité, c'est le petit mot qui traduit, qui se ramène le quod, quid, erat, esse. Comme c'est un peu trop long, c'est comme les noms qui se déclinent plusieurs fois, alors il y a le petit nom de famille, quiditas. Et quand vous voyez quiditas, vous ne voyez pas quod, quid, erat, esse. Ça traduit to, ti, en, enam. Voilà l'invention d'Aristote, hein, c'est d'avoir inventé ce mot. Mais comme ça, ça fait mieux aujourd'hui. Alors, toti en einein, le tien du to einein. Alors, en latin, quod quid erat esse. Et puis, quidite. Quand c'est assez long, le passage du toti en einein, quiditas. Et alors, ça se traduit en français quidité, c'est encore plus bête. Bon, alors, mais des quidités, ça ne veut rien dire du tout, quidité. C'est un mot passe-partout, c'est tout. Mais c'est un passe-partout, c'est vraiment ça, passe-partout, quidité. Alors, le premier saint Thomas, c'est la fameuse opposition entre essai exister. Exister, parce que si je traduis être, ça ne va pas. Mais exister, et puis cuditas, c'est essence. Saint Thomas n'hésite pas, du reste, de mettre au début de sa carrière, et presque toujours, du reste, Saint Thomas mettra cuiditas égale essence. Donc c'est la fameuse distinction entre essence et existence. Exister ou existence. J'aime mieux mettre exister, c'est plus juste de mettre exister. C'est exister, et puis l'essence. Vous voyez que quand on traduit cuidité, essence, on met une certaine distinction entre essence et exister, c'est bien ce que saint Thomas rappelle ici, alors que le mot cuidité, qui vient du totieneinein, fait que le tien est à l'intérieur du toineinein. Donc le tien qui exprime ce qu'est une réalité dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, ne peut pas s'abstraire du toineinein. Le fait d'exister. Tandis qu'on en fait une abstraction. Et c'est ça qui fait qu'à partir de ce moment-là, ça devient... Et ça, c'est le courant avicénien. Ça, c'est par Avicenne de fait que on a mis cette opposition entre essence et exister. Alors que le mot totieneinan grec fait que le tien est à l'intérieur du fait d'exister, du toeinan. Eina, c'est laisser, comprenez-vous. C'est laisser, tandis que tien, c'est l'interrogation cuiderat. Et donc cuiderat, c'est ce que la chose est en permanence. Alors, la chose, ce qu'est la chose en permanence, c'est son essence. Qu'est-ce qui demeure en vous en permanence? C'est votre essence, c'est votre nature. Vous ne changez pas du côté de votre essence, c'est votre nature. Sauf si vous évoluez, n'est-ce pas? Mais quand même, l'évolution ne change pas ça, n'est-ce pas? Alors, c'est quelque chose qui demeure. Alors, dans la ligne d'Avicenne, alors, le premier saint Thomas est tout à fait dans la ligne d'Avicenne. Alors, vous avez, il suffit maintenant de comprendre, ce en quoi l'essai ne diffère pas de la cuidité. Donc, quand il n'y a pas de différence, quand il n'y a pas de différence entre la cuidité et l'essai, ne peut pas être participé quant à sa cuidité ou son essence, vous voyez bien, cuidité ou essence, elle est égale, ne peut pas être participé quant à sa cuidité sans que son essai soit aussi participé. Si l'essence est participée, l'essai est participé. Forcément, puisqu'on a dit au point de départ qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc c'est clair comme de l'eau, hein, de l'eau de source. Mais j'espère que vous compreniez ça dans toute sa clarté. Ce en quoi l'essai ne diffère pas de la cuidité ne peut pas être participé quant à sa cuidité ou son essence sans que son essai aussi soit participé. Mais chaque fois que l'essence d'une réalité est divisée par participation, je ne sais pas comment ça se fait, ça ne fait rien. Chaque fois que l'essence d'une réalité est divisée par participation, la même essence est participée selon la ratio, mais non selon le même essai. Il est donc impossible que, pour ce en quoi l'essence ne diffère pas de l'essai, une participation essentielle soit divisée ou multipliée. Or, tel est Dieu. Dieu, c'est celui en qui, ça c'est Avicenne, hein? Dieu, c'est celui en qui l'essai et la cuidité s'identifient. Voilà ce que c'est que Dieu, pour Avicenne. Hein? Et saint Thomas reprendra ça, du reste, hein? À propos de la simplicité de Dieu, il dira, Dieu, c'est l'ipsum esse subsistens. Et quand il dit que Dieu est l'ipsum esse subsistens, ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance entre l'essai et la cuidité. Tandis qu'en nous, il y a une différence entre les deux. Il y a une distance entre les deux. La preuve, c'est que nous avons tous, du moins j'espère, la même essence, c'est-à-dire la nature humaine. C'est comme ça qu'on peut se parler. N'est-ce pas ? On a tous la même nature humaine, mais on n'a pas le même essai. Votre essai n'est pas le mien. Heureusement pour vous, parce que votre essai n'est pas le mien. Vous existez individuellement dans votre existence. Votre existence n'est pas votre essence. fameuse la distinction, n'est-ce pas, qui est quelque chose de très important à comprendre. Nous sommes ici tous ayant la même nature humaine. Nous baignons dans le même bain de la nature humaine. La nature humaine est la même pour nous tous. La nature humaine, c'est quelque chose d'abstrait. Hein. L'essai, notre acte d'existence est différent. En Dieu, il n'y a pas de différence entre l'essai et le point de vue de l'acuité. Alors, saint Thomas, partant de là, montre que si, dans une réalité, l'essence, l'existait, l'essai, est identique à son essence, cette réalité ne peut pas être multiple. C'est impossible, métaphysiquement, d'introduire une multiplicité dans un être qui est absolument un. Tandis que dans un être qui n'est pas absolument un, la multiplicité peut s'introduire. C'est très simple. Hein? La multiplicité ne peut s'introduire que là où il y a divisibilité, que là où il y a potentialité. S'il n'y a pas de potentialité, il n'y a pas possibilité de divisibilité. Il n'y a pas possibilité, donc s'il n'y a pas de potentialité, il ne peut pas y avoir de multiplicité, parce qu'il n'y a pas de divisibilité. Tandis qu'au contraire, dans un être absolument simple, dans lequel il y a identification entre qualité et essai, il ne peut pas y avoir multiplicité. C'est simplement ça comme argument. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous fait comprendre comment Dieu, on a affirmé qu'il existait, on veut simplement affirmer qu'il est unique. Comment Dieu, si c'est l'être en qui l'existé et l'essence sont un, cet être ne peut pas se multiplier. Cet être ne peut pas être participé. Cet être est donc au-delà de toute participation. Et vous retrouvez la grande vision néoplatonicienne de Proclus, de Damasius, que le premier est imparticipable. Il est au-delà de toute participation. Il est imparticipable. Dieu, comme tel, est imparticipable. Il est unique. C'est cette idée-là que prend saint Thomas. C'est pour ça que je vous prenais ça, c'est intéressant, parce que c'est de voir que le premier saint Thomas est dans l'ordre de la participation. C'est intéressant, parce que le premier saint Thomas est dans la ligne d'Avicenne, il est dans la ligne de la participation, c'est dit textuellement, hein, et c'est par la participation que saint Thomas montre, ou par la non-possibilité de participation, que saint Thomas montre que Dieu est unique. Mais ayant présupposé, hein, vous comprenez bien, c'est un raisonnement théologique, hein, où je montre que si Dieu existe, il est celui en qui l'existé et l'essence sont un, pas de différence entre les deux. S'il n'y a pas de différence entre les deux, il ne peut pas y avoir de participation. Je ne vais pas plus loin, je crois que vous saisissez ce que ça peut en donner. Passons tout de suite, parce que ça, c'est ce qui nous intéresse plus. Ça, c'était simplement pour vous montrer le premier saint Thomas très proche d'Avicenne. Le premier saint Thomas, élève d'Albert le Grand, dans la tradition d'Avicenne. Or, Avicenne implique un néoplatonisme. Il est aristotélicien, mais il implique un néoplatonisme. C'est pour ça que, si je reprends ces textes-là, je dirais saint Thomas est néoplatonicien. C'est vrai. Saint Thomas a été néoplatonicien. Il l'a été. Dans sa première jeunesse. Puis il s'est corrigé. Hein, comme saint Augustin, il s'est corrigé. C'est normal. C'est tout à fait normal que dans la première jeunesse, on continue la tradition, on entre dedans. Et puis, quand on arrive à voir que ça ne tient pas la route, alors à ce moment-là, on se corrige. Mais il faut un moment critique où on voit que ça ne tient pas la route. Alors à ce moment-là, on se corrige, si on est intelligent. Vous voyez ? L'être intelligent, c'est celui qui reçoit et puis qui corrige. Ce n'est pas celui qui s'oppose en premier lieu, non, c'est celui qui reçoit et puis qui corrige. Il reçoit très bien, si ce qu'il reçoit est bon, c'est très bien, mais en secouant ce qu'il reçoit, il s'aperçoit si ça tient la route. Alors c'est ça qu'on veut voir maintenant. Attendez, avant, je vois encore cet autre passage qui me semble très intéressant. En exposant le texte de la distinction 3 de Pierre Lombard, saint Thomas explique que la diversité des quatre rationes proposées par le maître des sentences en vue de démontrer l'unité de l'essence divine a son origine dans la diversité même des voies par lesquelles on remonte des créatures à Dieu. Alors ça, c'est très important, parce que ça, c'est propre à saint Thomas. C'est pas du tout Pierre Lombard. Et c'est intéressant. Autrement dit, là, nous voyons la première réflexion de saint Thomas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il montre que les raisons par lesquelles nous montrons que Dieu est unique, les quatre raisons par lesquelles Pierre Lombard montre que Dieu est unique, ces quatre raisons par lesquelles Pierre Lombard montre que Dieu est unique, sont les quatre voies par lesquelles on démontre l'existence de Dieu. Alors, vous voyez, là, il y a un progrès très net, et ça, c'est au fond l'intuition, cette première intuition que saint Thomas a. Pour notre intelligence, la première démonstration, c'est de montrer que Dieu existe. Et c'est notre manière de montrer que Dieu existe qui nous permet de montrer que Dieu est unique. Alors là, saint Thomas corrige Pierre Lombard. C'est la première correction qu'il fait. Et je crois que cette première correction va commander toutes les autres. Alors c'est intéressant parce que ça, c'est quand même à l'intérieur d'une tradition. Saint Thomas montre, tout simplement, je relis pour que vous voyez bien. Saint Thomas explique que la diversité des quatre rationes proposées par le maître des sentences en vue de démontrer l'unité de l'essence divine a son origine dans la diversité même des voies par lesquelles on remonte des créatures au Créateur. Voies qui sont exposées par Denis au chapitre 7 des noms divins. Ah, ça c'est intéressant aussi. Donc on va remonter de Pierre Lombard à Denis. Vous savez que Denis, pour saint Thomas, aujourd'hui on dit toujours le pseudo-Denis. Il ne faut pas dire pseudo-Denis parce que Denis a existé. Mais il y a plusieurs Denis. Hein. Et pour saint Thomas, ce Denis, c'est Denis l'Aréopagite. Donc, pour saint Thomas, Denis, c'est une très grosse autorité. C'est l'autorité qui vient immédiatement après la révélation. C'est pour ça qu'on a vu le nombre de fois où saint Thomas citait Denis. Denis, aujourd'hui, nous savons, c'est un Cappadocien, néoplatonicien, des Cappadociens du 5e siècle, je crois. On hésite, à peu près 5e siècle. C'est intéressant de voir que ce n'est pas du tout Denis l'Aréopagite. Du reste, il suffit de dire Denis pour s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait ce même style. Hein. C'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, saint Thomas va de fait exposer les noms divins. Dans Denis, il y a les noms divins. Alors, au chapitre 7 des noms divins, saint Thomas va tirer quelque chose de très particulier de Denis. Donc, il considère que ces voies sont exposées par Denis au chapitre 7 des noms divins. Denis dit en effet que nous remontons des créatures à Dieu de trois manières. Par causalité, par rémotion et par éminence. Là encore, c'est une donnée très traditionnelle. Et c'est intéressant que saint Thomas prend ce cheval de bataille traditionnel pour montrer comment nous pouvons remonter à Dieu. Par causalité, ça il faut le savoir, per causalitatem, per remotionis, per eminentiae. En latin, ça vaut mieux. Non ? Par causalité, par rémotion, c'est la voie négative, et par éminence. Et la raison en est, nous dit saint Thomas, là, que l'essai de la créature est par un autre. Ça, saint Thomas a réfléchi là-dessus, hein. C'est-à-dire laisser participer. Vous avez un essai participé, je peux le dire, dans la vision de sagesse, dans la vision du Créateur. Enfin, pas dans une vision philosophique, mais dans une vision de foi, je peux dire que toute créature vient de Dieu. Si toute créature vient de Dieu, elle existe ab altero. Elle existe par Dieu. Donc, dans toute créature, l'essai est participé. Mais comprenez bien, c'est une vision de théologien. Parce que quand je vous regarde en tant que philosophe, je ne vous dis pas en premier lieu, oh, quelle belle créature. En regardant, dans un regard philosophique, je vois au contraire, c'est un homme. Je dis d'abord c'est un animal, ce qui circule seul. Puis après je dis c'est un homme, quand je le vois sourire. Alors je dis ça c'est un homme. N'est-ce pas ? Parce que s'il y avait un singe à côté, il ne sourirait pas. Mais lui, il sourit. Donc c'est un homme, c'est le propre de l'homme. C'est par là que je distingue c'est un homme. Donc je dis d'abord un homme. Dans un regard de foi, je peux dire tout de suite, c'est une créature. Mais comprenez bien, c'est dans un regard de foi. Parce que dans un regard de foi ou dans un regard de sagesse, ayant démontré l'existence de Dieu, ayant montré que Dieu est créateur, je peux dans cette lumière-là regarder toutes les autres choses qui sont de Dieu. Toute chose vient de lui. C'est dans le prologue de Saint Jean. Toute chose vient de lui. Alors, comprenons bien. Saint Thomas va essayer de nous montrer que ce que dit Denis, les trois voix de Denis, les trois manières de parler de Dieu de Denis, per causalitatem, par la causalité, par le point de vue de la rémotion, per negationis, la négation, per imminentiae, la voie d'imminence. Eh bien, si je regarde laisser participer, n'essayez pas de toucher en vous. Hein. Quand vous tâtez le pouls, vous ne touchez pas, laissez participer. Nous n'avons pas d'expérience de laisser participer. Laisser participer, c'est un regard de conclusion théologique. La raison en est que laisser participer de la créature est par un autre, c'est-à-dire par Dieu. Nous sommes donc par là conduits à la cause par laquelle cet essai existe. Voyez le passage de laisser participer à la causalité. C'est ça qui m'intéresse ici. C'est de voir le passage, c'est un des points très difficiles à bien saisir dans saint Thomas, où à l'intérieur des interprètes de saint Thomas, il y a diverses interprétations. Alors, je veux vous montrer que si je suis le texte de très près, l'interprétation que je vous donnerai est vraie. Vous comprenez, c'est ça que je veux vous montrer, c'est bien évident. Il faut être attentif à ça. Mais c'est très important parce que c'est les deux visions de saint Thomas qu'on a aujourd'hui. Alors je prends exprès ces textes-là parce que c'est très très important ça. Ça donne toute une autre vision. Nous sommes donc par là conduits à la cause par laquelle cet essai est. Oui, de la causalité, de la participation, je remonte à la causalité. Or, cela peut se faire de deux manières. Soit que l'on regarde ce qui est reçu, et ainsi nous sommes conduits par mode de causalité. Ce qui est reçu, c'est l'essai. Bon, laisser participer me conduit à la causalité. Soit que l'on regarde la manière de recevoir, le modum recipiendi, parce que l'essai est reçu imparfaitement. Tout ce qui est reçu est toujours reçu imparfaitement. Le mode du récipient n'est jamais parfait. Chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on le reçoit selon le mode du récipient. Si je pouvais voir la manière dont vous recevez ce que je vous dis, je verrais que le récipient est différent. N'est-ce pas ? Il y en a, chez certains, il y a une profondeur métaphysique, alors ce qu'on tombe met longtemps à toucher le fond. Chez d'autres, au contraire, la surface de la terre, n'est-ce pas ? Alors, c'est le récipient n'est pas profond. Mais c'est vrai, c'est la question ad modum recipiendi. C'est très, très curieux, ça. Et c'est très intéressant. Vous voyez la participation. Laisser et reçu, chaque fois qu'on met... Quand vous mettez de l'eau dans un vase, le vase reçoit. C'est bien évident. Bon, si vous avez une grande baignoire énorme, vous versez un petit peu des flaques d'eau. Si, au contraire, vous avez un tout petit côté, il va déborder. Il va dire « assez, assez, assez !» Tandis que la grande baignoire dit « encore, encore !» Mais c'est extraordinaire, ce « ad modum recipiendi ». La manière dont on reçoit, il y a celui qui demande toujours plus, et il y a celui qui dit « assez, assez !» Parce qu'il y a un tout petit godet. Alors c'est intéressant de voir cette petite analyse ici. Or, cela peut se faire de deux manières. Soit que l'on regarde ce qui est reçu, et ainsi nous sommes conduits par mode de causalité. Ce qui est reçu, c'est laisser participer. Soit que l'on regarde la manière de recevoir, le modum recipiendi, parce que l'essai est reçu imparfaitement, Nous avons là deux modes. Ou bien l'on écarte de Dieu l'imperfection, secundum remotionem in perfectionis adeo. Donc on écarte de Dieu, on nie de Dieu l'imperfection. En Dieu, rien n'est reçu. Il n'y a pas un modum recipiendi en Dieu. Dieu ne reçoit rien. Il est source. C'est le propre de la source. C'est-à-dire, nous sommes des canaux. Alors nous recevons. C'est le propre de la créature de recevoir la causalité matérielle. La causalité matérielle, c'est celle qui reçoit. Alors la causalité matérielle, dès qu'elle reçoit, elle contracte. C'est pour ça que c'est difficile de ne pas contracter le don qui nous est fait. On le contracte et on le ramène à soi. Tu vois, ad modum recipiendi. Alors on le ramène à soi. Alors, on peut donc, on écarte l'imperfection de Dieu, puisqu'en Dieu il ne peut pas y avoir d'imperfection, ou bien l'on considère que ce qui est reçu dans la créature est dans le Créateur d'une manière plus parfaite et plus noble. Tel est le mode d'éminence. C'est très joli ça. Et ça c'est vraiment, et c'est intéressant, parce que c'est la première interprétation de Saint-Thomas. Je ne sais pas si c'est dans Albert le Grand. Il faudrait regarder ça, historiquement. Il faudrait regarder si c'est dans Albert le Grand, cette manière de regarder, parce que Denis ne le dit pas, ça c'est du propre de Saint-Thomas, c'est de cesser. Laisser participer peut se regarder de trois manières, ou plus exactement, quand j'analyse laisser participer, je vois que je peux voir dans laisser participer trois choses. Laisser participer, si je regarde l'essai, je suis conduit à la causalité. Si je regarde cet essai en tant qu'il est participé, c'est-à-dire en tant qu'il est reçu. Bon, en tant qu'il est reçu, il implique une imperfection. Je nie l'imperfection quand il s'agit de Dieu. Et je peux regarder laisser participer, je peux regarder que cet essai participé en Dieu est selon un mode éminent. Donc vous voyez que selon ce qui nous est montré ici, vous avez cet ordre. 1, 2, 3. C'est très important. Parce que certains ne mettront pas le même ordre. Par exemple, le Père Sertilange, ceux qui lisent le Père Sertilange, c'est un bon livre à lire, le Père Sertilange. Saint Thomas du Père Sertilange. Eh bien, ce Père Sertilange, mais 1, 2, 3. Vous voyez, il met causalité, éminence, rémotion. Saint Thomas, ici, selon ce texte, ne met pas cet ordre-là. Et je ne crois pas que Saint Thomas ait modifié. Et ça change tout. Ça change tout parce que vous avez la causalité qui vous conduit à l'éminence et vous avez en dernier lieu la négation. Donc, vous arrivez à dire, vous ne connaissez rien de Dieu. Et là, vous avez une notion d'analogie qui est toute différente. Parce que, au fond, la notion d'analogie va reposer là-dessus, toujours. Causalité, rémotion, éminence. Vous allez comprendre progressivement, parce qu'on voit. Mais c'est pour essayer de saisir le point de départ de la pensée de saint Thomas. C'est la naissance de la pensée de saint Thomas. C'est très bon pour Noël. Vous voyez, c'est la naissance de la pensée de saint Thomas. Vous voyez là le premier moment où saint Thomas commence à cogiter sérieusement. Pierre Lombard, Denis, Thomas d'Aquin. Qui tout de suite met une espèce d'intelligence dans laisser participer. Le premier raisonnement de Pierre Lombard nous dit saint Thomas procède par voie de causalité. Alors je vais vous le lire tout simplement pour que vous compreniez bien. Tout ce qui a laissé à partir de rien, ex nihilo, doit être par quelqu'un par qui ait été produit son essai. Donc vous avez vous laissé ex nihilo. Que vous êtes une créature, comme moi. Là, on est dans le même, exactement la même chose, et n'importe quelle réalité. Tout ce qui a laissé à partir de rien doit être par quelqu'un par qui ait été produit son essai. Or, toutes les créatures ont laissé à partir de rien, comme le manifestent leur imperfection et leur potentialité. Il faut donc qu'elles soient par un certain premier. Et celui-là est Dieu. Donc on aboutit au premier. Vous voyez comme raisonnement. Il faut se demander si ça prouve quelque chose, ça prouve rien du tout. Ça c'est autre chose. Mais il faut regarder ça. Vous voyez bien la pétition de principe, j'espère. La pétition de principe, elle est visible. Hein. Vous partez du fait que toute créature, mais si vous parlez de la créature, ça prouve que le créateur existe. Or, vous aboutissez à Dieu, créateur. Donc, il y a une pétition de principe dans ce raisonnement. Ça ne prouve rien du tout. Saint Thomas s'est mis le doigt dans l'œil, n'est-ce pas, avec tout le respect qu'on lui doit, n'est-ce pas, mais il s'est mis le doigt dans l'œil. C'est intéressant de voir qu'il a dit ce raisonnement-là dans sa jeunesse. Hein. Il a dit ça avec beaucoup de sérieux. Tous, et je le comprends, c'est très sérieux, mais vous voyez bien la pétition de principe. Or, toute créature, bon, si vous parlez de la créature, ça prouve que le créateur est là présent. Vous êtes dénommé créature à partir du créateur. C'est pas dans votre être d'être créé. Votre être, c'est votre nature. Alors, je peux pas voir tout de suite que vous êtes créature, hein, ça, c'est impossible. Je peux le dire si... d'être créé. Votre être, c'est votre nature. Alors, je peux pas voir tout de suite que vous êtes créature, hein, ça, c'est impossible. Je peux le dire si je vois le créateur. Alors, à partir du créateur, vous voyez que la mineure, hein, or, toutes les créatures ont laissé à partir de rien. Ça, c'est la définition de la créature. La créature, c'est être à partir de rien. Comme le manifeste, leur imperfection. Alors, il y a un petit effort de manifestation. Oui, alors, il devrait dire, toutes les réalités que je vois, étant donné leur imperfection et leur potentialité, ont nécessairement laissé reçu. Alors, à ce moment-là, je ne ferai pas de pétition de principe. Mais Thomas n'a pas dit ça. C'est intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir, vous voyez, comment un théologien, dans une tradition reçue, n'est-ce pas, aussi intelligent que saint Thomas, un théologien dans une tradition reçue ne voit plus la pétition de principe. Je relis l'argument pour que vous voyez bien la pétition de principe. Tout ce qui a laissé à partir de rien, ça c'est une hypothèse, hein, tout ce qui a laissé à partir de rien doit être par quelqu'un par qui ait été produit son essai. Ça, je dirais que c'est le principe de participation. Si c'est un principe, c'est un adage. Donc c'est pas un principe, le principe de participation. Parce que c'est un fausse, la participation, c'est un comment. Tout ce qui a laissé à partir de rien doit être par quelqu'un par qui ait été produit son essai. Or, toutes les créatures ont laissé à partir de rien, comme le manifestent leur imperfection et leur potentialité, donc il faut qu'elles soient par un certain premier, et celui-là est Dieu. Premier argument, hein, par voie de causalité. C'est intéressant de voir ça comme balbutiement. Hein. C'est le premier balbutiement de saint Thomas. C'est le premier balbutiement de saint Thomas. Il est tout jeune. Hein. Maître des sentences. Hein. Il est tout jeune, 25 ans, quand il fait ça. Ce raisonnement de saint Thomas. Il doit enseigner ça à Paris. N'est-ce pas ? Et il enseigne ça comme maître des sentences, comme celui qui est lecteur. Il est lecteur à ce moment-là, il enseigne ses premières leçons de théologie à partir de Pierre Lombard, en se servant de Denis. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il voit que Denis est beaucoup plus intelligent que Pierre Lombard. C'est déjà intéressant ça. Il le voit. Il voit que Denis apporte quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Il a montré le lien que Pierre Lombard ne montrait pas. Et que ces raisonnements de Pierre Lombard, en réalité, provenaient de Denis et provenaient de toute une argumentation, et qui est une argumentation beaucoup plus profonde, des voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. Le second raisonnement procède par voie de rémotion. C'est très curieux. Il faut qu'au-delà de tout... C'est du saint Thomas, hein, je donne exactement la traduction. Il faut qu'au-delà de tout imparfait, il y ait quelque chose de parfait, auquel ne se mêle aucune imperfection. L'allégeance de ce principe. Il faut qu'au-delà de tout imparfait, il y ait quelque chose de parfait, auquel se mêle aucune imperfection. Or, le corps est quelque chose d'imparfait, parce qu'il est terminé et fini par ses dimensions, immobiles. Il faut donc qu'au-delà des corps, il y ait une réalité aliquide qui ne soit pas un corps. Donc, je ne peux pas m'arrêter au corps. Vous voyez ? Et le principe, c'est il faut qu'au-delà de tout, être imparfait, il y ait quelque chose de parfait. Qu'est-ce que c'est que ce genre de principe ? C'est pas commun de préciser. Est-ce que je peux accepter ça comme une majeure, comme un principe ? De plus, toute réalité incorporelle qui, par sa nature, est soumise au changement, est imparfaite. Toute réalité incorporelle, le théologien pense les anges. Toute réalité incorporelle qui, par sa nature, est soumise au changement, mutabilé, est imparfaite. Donc, au-delà de toutes les espèces soumises au changement, comme sont les âmes et les anges, il faut qu'il y ait un certain être incorporel et immuable et tout à fait parfait. Et celui-là est Dieu. La seconde argumentation, vous voyez, qui est par le mode de rémotion, c'est que je ne peux pas m'arrêter à une imperfection. Je crois qu'on pourrait dire ça au point de vue métaphysique. Je ne peux pas m'arrêter à une perfection. Tout être imparfait est second. Tout être imparfait est second. Alors je dirais, pourquoi tout être imparfait est-il second ? Ça, Saint Amand ne se pose pas la question, il le donne vraiment comme un principe. Tout être imparfait est second. Si tout être imparfait est second, mais nécessairement, toutes les réalités que je vois sont imparfaites. Et même si je pense aux anges, vous voyez là l'apport du théologien, même si je pense aux anges, je n'ai pas l'expérience des anges, philosophiquement parlant. Les spectres blancs qui viennent me visiter la nuit, n'est-ce pas ? Je n'ai pas l'expérience des anges philosophiquement. Donc philosophiquement, je ne peux pas parler des anges. Or, par mode de rémotion, je m'appuie là-dessus. Les anges sont des êtres mobiles. Ils peuvent changer. S'ils peuvent changer, ils sont imparfaits. Puisque tout ce qui peut changer implique une potentialité. Tout ce qui implique une potentialité est imparfait. Donc, s'ils peuvent changer, ils ne sont pas premiers. Donc, il faut nécessairement un autre être premier. Les deux autres raisonnements proposés par Pierre Lombard procèdent par voie d'éminence. Mais l'éminence, précise saint Thomas, peut s'entendre de deux manières. Vous voyez, la manière dont saint Thomas interprète Pierre Lombard pour le réduire à Denis. C'est très très astucieux comme truc. C'est pas juste, mais c'est d'autant plus intéressant que c'est pas juste, vous voyez, parce qu'on voit mieux le procédé. On voit très bien l'intuition de saint Thomas. Ça. Ramener à Denis, ramener à laisser participer. C'est ça qui va tracasser saint Thomas toute sa vie. Laisser participer. On voit très bien que tout de suite, c'est ça qui le tracasse. Comment de laisser participer, je peux rejoindre par mode de causalité, par mode de rémotion, par mode d'éminence. Alors, vous allez voir encore ici l'astuce de saint Thomas. Mais l'éminence précise saint Thomas peut s'entendre de deux manières, soit selon l'essai, soit selon la connaissance. Ça, c'est encore plus curieux. Il y a deux manières de regarder l'éminence, soit par le point de vue de l'essai, soit par le point de vue de la connaissance. Le troisième raisonnement de Pierre Lombard procède par voie d'éminence dans l'essai et se formule ainsi. Le quatrième raisonnement procède par voie d'éminence dans l'ordre de la connaissance. Donc saint Thomas va mettre dans l'ordre d'éminence ce que Denis ne dit absolument pas. C'est saint Thomas qui le met. Il va mettre dans l'ordre d'éminence deux aspects, le point de vue de l'essai et le point de vue de la connaissance. Donc quand vous parlez par mode d'éminence, faisons attention, vous parlez de l'éminence selon l'essai ou de l'éminence selon la connaissance. Et nous allons avoir de cette manière tous les arguments de Pierre Lombard qui vont être ramenés à Denis. Oui. Alors, nous allons voir maintenant le troisième. Le troisième, donc, c'est par voie d'éminence dans l'essai. Se formule ainsi. Ce qui est bon et ce qui est meilleur se disent par comparaison avec ce qui est le meilleur. Vous retrouvez là un petit raisonnement déjà bien connu, de saint Anselme, hein, c'est le Maxime Thalée qui commence, hein, le premier raisonnement du Maxime Thalée. Ce qui est bon et ce qui est meilleur. Donc quand vous faites une comparaison en différents deux degrés, vous voyez une pomme, elle est bonne. Vous en voyez une autre où elle est meilleure. Hein, ça arrive de dire ça. Quand vous offrez deux pommes différentes, hein, alors mettez des noms sur ces pommes, si vous voulez. Une pomme du Canada, n'est-ce pas? Et une pomme qui... Alors vous dites, cette pomme du Canada est meilleure, elle est meilleure, elle est Melius, que l'autre qui est bonne. Oh, elle est bonne, celle-là. Je vous offre que des bons fruits, c'est sûr. Mais celle-là, elle est meilleure, vous savez. Les connaisseurs disent que c'est meilleur. Bon, quand vous dites ça, bon et meilleur, se disent par comparaison avec ce qui est optimum. Vous ne pouvez pas graduer sans qu'il y ait un optimum. Vous voyez la causalité exemplaire. Dès que vous graduez en disant ceci est bon, ceci est meilleur, si vous analysez ça, vous ne pouvez le dire qu'en fonction d'une mesure que vous portez en vous. Donc d'un optimum. Ça c'est affirmé très simplement. Saint Thomas ne l'a jamais expliqué. Tellement évident. Patate. C'est bien évident. C'est ça, c'est bien évident que quand vous dites ça, ben vous n'y réfléchissez pas, mais réfléchissez maintenant. Quand vous offrirez quelque chose, vous dites, non, un optimum. C'est vrai, puisque vous faites une comparaison entre deux bontés. Si vous faites une comparaison entre deux bontés, il faut bien que vous ayez un archétype. Si vous n'avez pas un archétype, vous ne pouvez pas faire la comparaison entre deux bontés. C'est impossible. Vous dites, cette pomme est meilleure que celle-là. Pourquoi est-elle meilleure? C'est parce qu'elle est plus proche de l'archétype. L'archétype que vous n'avez jamais goûté. Hein. C'est évident. C'est l'archétype que vous avez en vous. C'est l'idéal que vous portez en vous. On porte un idéal en soi. Cet idéal de bonté à partir de laquelle je vais mesurer. Vous savez, comme ce bon cet homme qui dit je ne me marierai qu'avec Miss Idéal. Comme une dame. Il ne la rencontrera jamais. Il se mariera avec la première venue. C'est toujours comme ça. Parce qu'il n'y a rien de tel pour nous aveugler, vous voyez, que de voir ce modèle, cet archétype. Cet archétype, il existe, hein, il ne faut pas. Vous voyez, ce serait très intéressant de comparer ça avec toute la philosophie des valeurs. Je crois que c'est très analogue à tout ça. C'est très intéressant à regarder ça, parce que c'est intéressant à saisir ce principe. Ce qui est bon et ce qui est meilleur se disent par comparaison avec ce qui est le meilleur, optimum. Vous avez donc bonum, melius, optimum. Or, dans les substances, il y a le corps qui est bon, et l'esprit créé qui est meilleur en ce... Et c'est la pomme du Canada, vous voyez celle-là. Et l'esprit créé qui est meilleur, et en qui cependant la bonté n'est pas par elle-même. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui soit le meilleur, par quoi la bonté soit en l'un et l'autre, corps et l'esprit. Et ce meilleur, c'est Dieu. Vous voyez comme preuve, hein? Preuve d'éminence. C'est très curieux, la preuve d'éminence. C'est l'optimum. C'est l'idéal. Portez en vous ça. Vous voyez que ça ne prouve rien du tout, hein? Encore une fois, ça ne prouve rien du tout. C'est très intéressant comme raisonnement pour scruter l'intelligence de saint Thomas, hein, à son début, de voir cet optimum qu'il porte en lui. Alors vous voyez, la majeure, elle est très, très extraordinaire. Saint Thomas ne dira jamais plus ça après. Il prend deux choses, c'est comme si entre le corps et l'âme, vous aviez deux réalités. Vous voyez le néoplatonisme qui est là présent, hein, le néoplatonisme de Platon. Le corps est bon, il faut bien dire, le corps est bon. L'esprit est meilleur. C'est bien évident. Entre les deux, vous choisiriez l'esprit, j'espère. N'est-ce pas? L'esprit est meilleur. Donc, si le corps est bon et que l'esprit est meilleur, il faut nécessairement qu'il y ait un troisième, qui est Dieu. Par où le corps est bon et l'esprit est bon. Donc ça, c'est par le point de vue de l'essai. L'éminence dans l'ordre de l'essai. Quant au quatrième et dernier raisonnement, il procède par voie d'éminence dans l'ordre de la connaissance. Alors voici le raisonnement, vous allez voir. C'est curieux parce qu'on croirait que c'est plutôt la connaissance, hein, ce troisième. En toutes les réalités où se trouve du plus et du moins beau, alors là vous avez la beauté, ça va encore mieux. le speciosum, on trouve un certain principe de beauté. Donc dans toutes les réalités où se trouve du plus ou moins beau, on trouve un certain principe de beauté, aliquod, speciositatis principium, un certain principe de beauté. Et c'est dans la mesure où une réalité est plus proche de ce principe qu'elle est dite plus belle qu'un autre. Oui. C'est l'ébauche de ce que vous allez retrouver dans la somme. Et cette ébauche, elle se fait du côté du beau. C'est du reste, c'est très beau de voir que ce soit du côté du beau. C'est très très bien. Parce que c'est vrai, on se fait un archétype de la beauté, miss idéal. Et dans la mesure où une réalité est plus proche de ce principe, qu'elle est dite plus belle qu'une autre. Or, nous constatons que les corps sont beaux d'une beauté sensible, mais que les esprits sont plus beaux d'une beauté intelligible, le banquet. Hein? C'est le banquet de Platon, ça. Or, nous constatons que les corps sont beaux d'une beauté sensible, mais que les esprits sont plus beaux d'une beauté intelligible. Il faut donc qu'il y ait aliquid, quelque chose par laquelle l'un et l'autre, le corps et l'esprit, soient beaux et dont les esprits créés s'approchent davantage. Vous voyez ce troisième raisonnement. Alors, c'est très curieux. Quelle différence y a-t-il entre le troisième et le quatrième ? L'éminence quant à l'essai et la connaissance. C'est très curieux cette manière dont saint Thomas mais sur ces deux raisonnements qu'il trouve chez Pierre Lombard, qu'il formalise du reste, hein, qu'il reprend avec plus de force, qu'il formalise ces deux raisonnements. L'un, il dit, c'est l'essai, et l'autre, c'est la connaissance. Et voyez pourquoi. Parce que pour saint Thomas, la beauté n'est formelle que dans la connaissance. Et donc là, il y a tout un aspect qui est très intéressant. Tandis que la bonté, elle est formelle dans la réalité. Et c'est pour ça que c'est le point de vue de la bonté et le point de vue de la beauté. La beauté n'est formelle, donc le beau formel, il est dans la connaissance. Tandis que le bien est parfaitement lui-même dans l'exister. Et c'est pour ça qu'il met la différence entre les deux. Donc c'est intéressant, point de vue, manière dont saint Thomas regarde le point de vue du beau et du bien.